Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce séminaire de recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Moi, je suis Hélène Chauveau. Je suis chargée de projet au service culture, sciences, société de l'Université de Lyon et c'est moi qui animerai cette séance aujourd'hui. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième séance de notre saison 2020-2021 de notre webinaire, format webinaire une fois de plus. Sur la recherche participative. Donc ce séminaire, ce webinaire, il prend place dans un dispositif, donc je le rappelle brièvement s'il y a des personnes qui ne connaissent pas la boutique des sciences, un dispositif qui est donc un dispositif de recherche participative de l'Université de Lyon, qui met en lien en fait des acteurs de la société civile avec le monde de la recherche. Et dans ce cadre-là, on propose aussi depuis un peu plus d'un an ce temps d'échange de bonnes pratiques et de réflexion méthodologique sur le thème des recherches académiques coproduites avec des citoyens, dites donc recherche participative, avec des nuances qu'on abordera, je pense, un petit peu aujourd'hui. Les séminaires d'ailleurs de la saison dernière sont disponibles sur le site de la boutique des sciences, rubrique ressources podcast, donc je vous encourage à aller les écouter si ce type d'approche vous intéresse en particulier. Et cette année, on se retrouve donc chaque premier jeudi du mois autour d'exemples de recherche participative, aussi variés que sur des thèmes comme le rôle de la médiation dans l'éco-recherche, les rapports police-population, les impacts d'une boutique des sciences, ou encore les instruments de musique le mois prochain. Comme vous le voyez dans notre programmation, qui est sur la slide suivante, je veux bien, Béatrice ou Florian, que vous puissiez la passer. Donc le 4 mars, on se retrouvera avec des chercheurs du CMTRA qui travaillent sur les instruments de musique à Villeurbanne avec les habitants. Et puis le 1er avril, sur l'Observatoire des médiations culturelles du Québec. Et puis mai-juin, la programmation est encore en cours. Donc, programmation qui est aussi à retrouver sur notre site. Donc, pour ce mois de février, on est très heureux d'aborder le thème du croisement des savoirs au jardin. Et pour ce faire, j'accueille donc Jeanne Cartier-Millon, Béatrice Morine et Florian Charvolin. Vous êtes respectivement donc jeunes diplômés et chercheurs et chercheuses confirmés, et vous allez échanger avec nous en particulier sur un projet qui invite jardiniers et scientifiques à travailler ensemble, qui s'appelle le Passe-Jardin. Donc n'hésitez pas, les participantes et participants, à poser vos questions sur le chat de Teams avec le logo Converser, et puis éventuellement à poser vos questions aussi à l'oral en levant la main à la fin des échanges. Donc je laisse Jeanne, Béatrice et Florian se présenter plus en longueur et puis nous dérouler leurs travaux avant d'échanger avec vous, avec nous, d'ici environ 45 minutes. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là.
Merci pour la présence aux uns et aux autres. Merci à la BDS de nous avoir invités, à Hélène et à toute l'équipe. Donc, on va faire un travail à trois voix. Et donc, du coup, on essaie d'être assez coordonnés dans notre propos et on espère que ça va fonctionner. Merci de votre présence.
Donc on va commencer par donc on a prévu 45-50 minutes de présentation. On va commencer par la question des sciences participatives et de la recherche collaborative à deux voix entre Béatrice Morine et moi-même. Ensuite, la genèse, les enjeux et l'évolution de la recherche participative autour des SIPA. Alors les SIPA, c'est les sciences participatives dans le langage du Passe-Jardin, qui va être présenté par Béatrice Morine. Ensuite, l'exemple du stage de recherche sur les sciences participatives dans les jardins à travers ses résultats et le retour d'expérience par Jeanne Cartier-Millon. Ensuite, Béatrice reprendra la parole sur le déploiement des recherches collaboratives, un peu comment ça s'étend de plus en plus au Passe-Jardin. Et je terminerai sur la question des impacts et du maillage des projets de recherche participative comme celui du Passe-Jardin et voir comment ça peut renouveler aussi les recherches participatives en général. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Florian Charvolin. Je suis sociologue au centre Max Weber, qui est un centre de Lyon et de Saint-Étienne. Je travaille sur la question de l'environnement, en sociologie de l'environnement, et notamment sur le numérique dans le domaine de la pollution de l'air et de la biodiversité. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Je voulais juste dire que je suis membre du collectif national Sciences participatives et biodiversité qui se réunit périodiquement entre les différentes associations qui sont derrière, et puis membre du conseil scientifique de la LPO.
Voilà, et donc moi je suis Béatrice Morin, je suis sociologue et anthropologue, donc également au Centre Max Weber qui est un laboratoire de sociologie dans lequel il y a également quelques anthropologues. Et pour ma part, je travaille sur les systèmes alimentaires locaux durables ou viables et sur les questions ou les processus d'agroécologisation dans les pratiques de jardinage, mais également dans l'agriculture, à la fois en France et au Chili, et en France plus particulièrement sur la métropole de Lyon. Et je suis aussi spécialiste des recherches collaboratives et de la question de l'implication du chercheur dans les protocoles de recherche, et donc dans les liens entre sciences et société. Et je suis également coprésidente du PAGE Jardin, donc on va voir sans doute dans cette intervention que c'est complètement lié, c'est-à-dire j'aurais bien du mal à dire quand est-ce que je suis chercheur ou quand est-ce que je suis membre du PAGE Jardin. Je dirais que ça s'intrique très fortement dans ce qui va être raconté tout à l'heure.
Donc moi je suis Jeanne Cartier-Million, je suis ancienne étudiante au master gestion de l'environnement à l'université de Jean Monnet. Et donc, j'ai réalisé mon stage de fin d'études au PAGE Jardin, et c'était parmi les stages proposés par la boutique des sciences.
Alors, pour faire un petit point général sur les sciences participatives, rapidement dit, les sciences participatives qu'on étudie ici, c'est des sciences participatives un peu particulières qui sont relatives à la biodiversité, il en existe beaucoup d'autres sur des tas de domaines, et c'est aussi des sciences participatives qui sont d'une part sur la biodiversité et en plus qui ont une spécificité puisqu'elles concernent l'observation de la nature in situ en plein air. Donc ces sciences participatives, elles s'orchestrent autour de plusieurs phases. La première phase, c'est celle de la reconnaissance donc des personnes qui s'impliquent et qui vont dans la nature, entre guillemets dans la nature, regarder les plantes, les animaux, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, etc., et qui commence par les reconnaître, c'est-à-dire nommer les espèces. Ensuite, en deuxième temps, ces amateurs ou ces personnes qui observent vont signaler les espèces qu'elles ont observées sur un site internet, généralement sur ordinateur, donc c'est les sites internet des différentes sciences participatives qui existent, il y en a beaucoup qui existent, et qui sont généralement par taxon. Et donc, deuxième étape, c'est de signaler sur Internet dans les formats de saisie qui sont prévus. La troisième étape, c'est ce qui se passe derrière l'ordinateur, c'est ce qui se passe dans les associations qui génèrent les sciences participatives ou les laboratoires qui sont derrière, qui vont bancariser la donnée, qui vont la traiter, agréger les données, faire des statistiques, etc. Et la quatrième étape, c'est le retour vers les usagers, par le biais de cartes, d'animations, etc., qui sont des usagers, qui sont par exemple, bien sûr, les amateurs qui ont produit la donnée, mais aussi des laboratoires de recherche, des politiques publiques, etc. Alors, chaque science participative, généralement par taxon, développe un protocole et donc produit des données. Alors, les données, il faut distinguer deux types d'informations qui sont retenues par les sciences participatives, et c'est important pour la suite. D'abord, les données, ce qu'on appelle les données, c'est-à-dire essentiellement des données concernant l'espèce contactée, le sexe, la géolocalisation, et puis éventuellement une ou deux autres données sur la météo, des choses comme ça, et qui sont le cœur de l'information qui est transmise et qui est ensuite mise en statistique. Puis il y a ce qu'on appelle les métadonnées qui permettent de situer les circonstances de l'observation, qui sont le nom de l'observateur, des fois il y a son lieu de résidence, puis il y a d'autres informations, la date bien sûr où a été prise, a été signalée la donnée, là encore de la météorologie ou d'autres informations, et on reviendra en conclusion sur l'importance d'étendre ces métadonnées. Cette séparation fait que les protocoles de sciences participatives se concentrent sur les données pour l'analyse des observations, ils ne s'intéressent pas ou très rarement aux métadonnées, ça change, mais le cœur des sciences participatives, c'est vraiment de faire des tableaux d'informations sur les espèces.
Alors, du coup, le propos qu'on a aussi avec vous aujourd'hui, c'est de vous expliquer d'où ça vient, comment c'est arrivé au PAGE Jardin. Et donc, du coup, de faire un petit point du côté recherche avant d'aller regarder comment ça se passe au Pass Jardin et ensuite comment ça se passe dans les jardins plus concrètement avec Jeanne. Je dirais que dans au Centre Max Weber, donc on a créé avec Florian Charvelin une équipe de jeunes chercheurs il y a quelques années, un collectif qui s'intéressait à la question des crises, des causes, des controverses environnementales. Et du coup, qu'on a développé autour de quatre axes principaux. Le premier, c'était une interrogation sur qu'est-ce que c'est que le travail et les questions environnementales aujourd'hui. Ensuite, de se dire qu'on ne pouvait attraper cette question-là que, enfin pas que, mais en tous les cas, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de situer ces pratiques par l'observation dans la mise en place d'ethnographies multisituées ou d'études microsociologiques sur le terrain, dans une volonté de faire des recherches collaboratives, donc avec avec les acteurs de terrain. Donc on est une sociologie, une anthropologie qui se pratique. On n'est pas une sociologie, on pratique pas une sociologie sur plombe, j'ai envie de dire. Ensuite, ce qui nous semblait intéressant aussi, et ça va être le cas de ce qu'on va dérouler aujourd'hui, c'est de travailler sur la question de l'émergence comme très commun des problématiques environnementales, et donc de faire du suivi d'objets, de sujets, de manières de faire qui sont en cours d'émergence. Et dernier axe central pour nous, c'est de travailler sur les questions de l'engagement, à la fois donc des chercheurs et de la société civile organisée, et de mettre en œuvre des méthodes de recherche qui facilitent la réflexivité à la fois des chercheurs, mais également la réflexivité des acteurs de terrain, pour favoriser la construction des savoirs et des savoir-faire. Donc là, dans notre cas, entre laboratoire de recherche, Pass Jardin, et jardin et jardinier et jardinière.
Alors, cette équipe 3CE, donc crise, cause, controverse environnementale, elle essayait d'être à la croisée de plusieurs dimensions, en fait, qui concernent à la fois la recherche et puis la société civile. C'était d'une part conjuguer académisme et recherche collaborative. Donc l'académie a une forme de reconnaissance qui est disciplinaire généralement dans les recherches académiques, avec des reconnaissances par les pairs dans des disciplines particulières. Côté recherche collaborative, on est plutôt sur de la co-construction, donc on est plutôt sur des émergences de reconnaissance qui tiennent à l'articulation entre société civile et recherche. Et puis on croisait aussi deux autres axes. D'une part, la question des alternatives, qui sont les petites initiatives plus ou moins grosses qui ont vocation à essaimer, qui se trouvent un peu dans le creux des dispositifs institutionnels ou capitalistes, même, on peut dire. Et puis le dernier point, c'est la pédagogie et la diffusion, c'est-à-dire que on étudie aussi, on essaye de promouvoir des méthodes qui soient didactiques, qui permettent d'ouvrir la science à d'autres populations et de permettre la diffusion du savoir et des pratiques.
Alors du coup, on en vient à présent, je dirais, à la petite histoire de comment sont arrivées les sciences participatives au Pass Jardin. Alors je dirais que dans la suite de ce qu'on vient de dire du collectif 3CE, on a mis en place, je crois que c'était en 2017, oui c'est ça, une journée d'études sur les activités en rapport avec l'environnement, dans lequel nous étions donc réunis, Florian Charvelin et moi-même, avec les collaborateurs ou les personnes avec lesquelles on travaille dans la société civile. Alors, Florian Charvelin avait fait une intervention avec une collègue, Lolita Wong, de Planète Mer, sur la question des sciences participatives. Et alors que moi-même, Béatrice Char, qui était à l'époque directrice du Pass Jardin, et Ruth Anne Hartmann, je vais y arriver, qui était à la légumerie à cette époque-là. Et donc, c'est en écoutant, je dirais, la présentation de Florian Charvelin et de Lolita Wong qu'on s'est mis à discuter avec Béatrice Sarr en disant qu'en fait, on n'avait pas pensé à les mettre en place au Pass Jardin, que ça pouvait être une bonne idée. Et donc, c'est à partir de cette expérimentation d'interface entre sens et société autour de la question environnementale qu'on a commencé à réfléchir au Pass Jardin. Là, c'était juste une photo sympathique pour dire, voilà, on était à cette journée-là, elle se passait à l'école normale supérieure, où ils avaient accepté qu'on fasse un repas participatif et dans lequel on pouvait effectivement mettre en pratique concrètement ce dont on parlait avec Béatrice Chard dans le cadre de notre intervention. Alors, le page jardin, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est le page jardin et que souvent il y a une confusion entre page jardin et jardin. Alors, le page jardin, en fait, c'est une tête de réseau. C'est la tête de réseau, donc qui est une association des jardins partagés au niveau de la région Aura et qui aujourd'hui est plus centrée sur la métropole depuis les changements politiques de la région Aura, comme beaucoup d'autres structures sur les questions environnementales ont été affectées. Et je dirais donc que le PAD Jardin, qui existe depuis 21 ans aujourd'hui, a participé à créer ou a accompagné 180 jardins de la métropole. Et là, je vous ai mis en fait la carte des jardins partagés que vous pouvez retrouver sur le site du PAD Jardin. Et là, les chiffres correspondent en fait au nombre de jardins qui existent sur le territoire de la métropole. Donc, on est bien sur une structure tête de réseau. Et donc là, ce dont il va être question, c'est comment le PAGE Jardin se saisit de cette question des sciences participatives et va réfléchir pour les mettre en place dans les jardins et comment peut-on le faire. C'est-à-dire, le PAGE Jardin n'a pas de jardin à soi ou de jardin pédagogique ou expérimental ou une vitrine dans lequel il pourrait expérimenter lui-même et inviter d'autres personnes. Donc du coup, là, on est bien sur comment on attrape cette question-là. Et du coup, ce qui m'a intéressé dès le départ, ainsi que l'équipe du PAGE Jardin, c'est et aujourd'hui, excusez-moi, comment du coup a germé puis s'est concrétisé donc la réflexion et la mise en œuvre donc des sciences participatives au PAGE Jardin dans cette interface entre sciences et société. C'est-à-dire que dès qu'on parle effectivement de sciences participatives et de protocoles, il faut effectivement qu'il y ait cette interface entre sciences et société. Je dirais que là, on déculpe cette notion, puisque du coup, moi, je suis pas orientée en biologie ou en écologie, mais bien plutôt en sciences humaines et sociales. Donc, je dirais que les enjeux ne sont pas les mêmes du côté de l'association, qui s'inscrivait et que j'accompagnais avec d'autres personnes dans le développement d'un nouvel axe de recherche et de développement, alors que les enjeux pour la recherche, que ça soit pour moi, c'était bien évidemment de développer cette recherche collaborative du point de vue des sciences humaines et sociales, mais également de faire le point sur des compétences qui sont davantage issues de l'écologie et des questions environnementales. Mais ce qui me semble important, c'est ces flèches, en fait, hein, c'est les interfaces entre les deux, et que du coup, les questions qui sont dans le cadre là en jaune pâle sont les questions transversales qu'on a travaillées entre l'association et du côté de la recherche. Donc, en gros, les questions, c'est comment comprendre ce que sont les sciences participatives, comment elles fonctionnent, et puis ensuite de se demander comment on peut les mettre concrètement en place dans les jardins. Et je rappelle que le PAGE Jardin n'a pas de jardin, donc du coup, c'est bien de se connecter avec des jardins et des jardiniers qui s'inscrivent eux-mêmes dans leur propre association et dans lequel le PAGE Jardin peut insuffler, discuter, échanger, accompagner, mais ce n'est pas le PAGE Jardin qui peut décider ce que font les jardins dans leur jardin. Donc, du coup, quelle est cette place pour le PAGE Jardin dans ce dispositif-là et comment donc construire collectivement cette nouvelle démarche en croisant les savoirs des uns et des autres, que ce soit ceux des chercheurs, des salariés du PAGE Jardin, mais également des membres du CA, des jardins, des jardiniers, des jardinières. Et en gros, du coup, alors cette slide, elle est un peu peut-être indigeste, mais du coup, je pense que elle cadre le propos qui m'anime dans cette petite partie d'intervention. Donc, du coup, c'est comment les sciences participatives peuvent-elles favoriser des pratiques plus favorables à la reconnaissance et au développement de la biodiversité dans les jardins partagés. Ça, c'est le premier niveau de question, donc orienté vers la biodiversité, comment on peut la favoriser. Et l'autre niveau de question, qui est pas du même registre, mais elles sont interdépendantes, c'est quels sont les enjeux et les difficultés auxquelles le PAGE Jardin, comme tête de réseau des jardins partagés, doit faire face à la fois en interne au niveau du PAGE Jardin, mais au niveau sur le terrain des jardins, des jardiniers, et dans ses relations avec les autres acteurs, qu'ils soient associatifs et ou institutionnels. Donc, on est vraiment sur une dynamique de changement qu'accompagne, je dirais, la recherche collaborative et les acteurs qui s'y sont associés. Pour en revenir sur les objectifs fondamentaux, je dirais que les sciences participatives étaient pour nous considérées comme un outil pour la biodiversité ordinaire, avec une volonté donc de favoriser et développer la sensibilisation à l'éducation et à l'environnement, de connaître et de reconnaître les espèces, qui n'est pas évident ni facile autour de protocoles, d'inventorier certaines espèces animales, de favoriser la biodiversité urbaine dans les jardins partagés, entre autres par la question de la transformation des pratiques, même si effectivement beaucoup de jardiniers et de jardinières, bien évidemment, sont déjà férus, bien évidemment, en jardinage. L'idée, c'est aussi de participer au développement de pratiques agroécologiques et permaculturelles par l'intermédiaire de formation ou d'accompagnement par ces sciences participatives. C'est également de préserver et de développer des espaces durables sur les territoires urbains pour un mieux vivre ensemble et pour accompagner aussi la transition écologique à partir de dispositifs existants déjà ou émergents, donc de favoriser les trames vertes et bleues et leur circulation sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi toute la question des îlots de chaleur qui sont des questions importantes aujourd'hui. Le dernier point qui nous semble important, c'est de réfléchir à la question de l'ouverture des jardins sur les quartiers, mais aussi aux autres acteurs, entre autres associatifs. Et effectivement, il y a une grosse demande depuis, je dirais, 2 ans pour que les jardins puissent participer à d'autres expérimentations et pas celles simplement qui sont portées par le Père Jardin, mais également par d'autres associations. Alors, ce qui me semble, j'ai envie de décliner avec vous en fait les 4 étapes dans la mise en œuvre du projet donc d'émergence des 6 pas dans les jardins comme nouvel axe de recherche développement Page Jardin, autour d'un premier point sur la création donc d'un groupe de travail sur les 6 pas, puis comment on est monté les uns et les autres en expertise partagée sur ce qu'on est en train de mettre en place. Puis ensuite, comment on est parvenu à animer, étudier, diffuser cette connaissance pour enfin participer au déploiement des 6 pas sous diverses formes. Et là, j'ai envie de dire que ça reprend pas mal la dynamique des travaux de Joël Zask sur la question de la participation qu'elle construit autour de 3 piliers qui sont la prise de part, donc là la prise de part d'individus, du collectif, de l'association Page Jardin. Ensuite, la question de la contribution, donc des uns et des autres, mais également des jardiniers, des jardinières. Et puis enfin, aussi du bénéfice pour soi, donc chacun d'entre nous, pour le collectif, pour les jardiniers et les jardinières, et aussi pour, je dirais, favoriser cette biodiversité et donc d'y intégrer des relations entre humains et non humains. Alors, assez rapidement, donc la création du groupe de travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est issu de la réflexion qu'on avait eue lors de la journée d'études, et ça a associé dès 2018, si mes souvenirs sont bons, fin 2017, début 2018, Bernard Marais, qui est co-président du Page Jardin, Thomas Bouchet, qui était en train de finir ses études, moi-même. Et puis après, le collectif s'est agrandi très rapidement avec des stagiaires qui ont fait un travail de recherche, des services civiques qui se sont passionnés aussi pour les sciences participatives. Et puis Clara Colm, qui est aujourd'hui salariée du Page Jardin et qui a une partie de son temps de travail qui est dédiée aux sciences participatives. Bastien Macias, Jeanne qui est ici présente, et puis également depuis cette année, avec un nouveau conseil d'administration, Alexandra Baudatin, qui vient de nous rejoindre sur cette thématique et qui favorise le développement du collectif. Alors, comment on s'y est pris pour monter, pour travailler? Je dirais que pour moi, il s'agit d'une montée en expertise individuelle et collective avec une formation sur qu'est-ce qui peut être observé dans les jardins, quels sont les protocoles, quels sont ceux et sur lesquels on avait envie de travailler. Donc, du coup, d'être en capacité déjà d'aller les inventorier. Et donc, on a passé beaucoup de temps à d'abord les repérer. Et puis après se dire sur lesquels on allait travailler et quels étaient ceux qui nous semblaient les plus pertinents à expérimenter d'abord au sein entre membres du Page Jardin, puis ensuite se dire quels sont ceux qui allaient être les plus envisageable à mettre en place dans les jardins. Et donc, du coup, on a fini par choisir, alors je crois qu'on en a cinq, hein, oui, c'est ça, Spipol, qui est, bon, peut-être que Florian ou Jeanne reviendra dessus. Donc, on en a choisi, en fait, cinq, Spipol, l'étude des, l'observatoire des bourdons, les oiseaux des jardins, celui sur les vers de terre, sur les papillons. Et on discutait tout à l'heure qu'on réfléchirait bien sur la mise en place d'un prochain sur les hérissons. Voilà, qui est apparemment un nouveau protocole qui vient de sortir. Alors, la spécificité aussi, il me semble, du PAS Jardin, peut-être par rapport à d'autres manières de travailler sur les sciences participatives, c'est qu'en fait, on a d'abord exploré différentes espèces, différentes taxons, disons comment on allait les aborder, et surtout on a décidé de ne pas, comment dire, de les travailler de façon transversale sur les jardins, c'est-à-dire de considérer que l'espace jardin en lui-même était pertinent, et donc du coup de cumuler les protocoles dans un même espace, et donc pour essayer de comprendre en quoi ça favorise la biodiversité plutôt que de rentrer, je dirais, simplement que par une espèce. Donc ça, je pense que Florian y reviendra tout à l'heure. Là, je passe sur les questions. La troisième étape, c'est une fois qu'on a réfléchi, etc., on a commencé à vouloir animer des protocoles. On a continué à vouloir étudier et diffuser. Donc, on a créé en 2018 et 2020. Alors, l'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué avec le confinement. Et là, on va se relancer pour 2021 sur un programme annuel de sciences participatives qui, en fait, se déroule, par exemple, là, sur 2019-2020. Il y a eu des ateliers participatifs qui ont eu lieu dans des jardins qui étaient des jardins volontaires, donc sur les oiseaux des jardins, les escargots. Et puis, on a aussi, pendant les périodes d'hiver où on ne pouvait pas avoir trop d'activités, on a invité Anne Dosière du Musée national d'histoire naturelle à venir nous présenter Viginature. Et puis, Florian Charvelin est également intervenu sur l'ouvrage qu'il a publié il y a un an et demi, deux ans. Et puis, on a mis en place aussi des inventaires participatifs de biodiversité avec l'association Espèces par Millions, qui a aussi fait des inventaires de biodiversité, entre autres sur le premier arrondissement. Et puis à côté de ça, on est vraiment sur un processus de contribution qui ne cesse de se développer. À chaque fois, il y a des interrogations pour l'équipe du PAS Jardin en se disant qu'est-ce qui nous manque comme compétences, qu'est-ce qui nous manque comme type d'information, de qui on aurait besoin pour travailler davantage. Donc, on a eu un premier stagiaire du master SADL en 2018 qui a travaillé en fait sur comment faire émerger de nouveaux publics. Donc là, on était sur les publics de jardiniers. Comment on pouvait mobiliser des jardiniers, des jardinières sur cette thématique des sciences participatives. Puis après, c'était Jeanne qui est arrivée et qui a soutenu son mémoire en septembre 2020, qui va tout de suite prendre la parole. Et puis aussi des nouvelles de Laetitia de Nantes. Donc on est tout content, qui était service civique au PAS Jardin, qui nous a aidés dans cette démarche-là et qui est aujourd'hui doctorante. Alors, pas sur les CIPA, mais sur les questions environnementales et d'environnement urbain à l'Université de Lausanne en Suisse. On ne t'entend pas, Jeanne ?
J'ai réactivé mon micro. Comme vous a dit Béatrice, en fait, au sein du jardin, il y a d'abord eu des entretiens, plutôt des activités, il y a eu des événements aussi qui étaient plutôt ponctuels. Et donc moi, l'objectif de mon stage, c'était de mettre en place une démarche durable de sciences participatives dans des jardins partagés. Et ainsi, en accompagnement, plusieurs jardins partagés qui étaient pilotes, essayer que ce soit plus durable et que ce soit plus sur le long terme que des activités ponctuelles. Donc là, vous pouvez voir différentes étapes de mon stage. Donc notamment, il y a eu 4-6 études auxquelles on a réfléchi. On a essayé de prendre des paramètres plutôt diversifiés, qui soient situés dans différents endroits dans Lyon, qui soient aussi, par exemple, certains qui étaient plus petits, d'autres plus grands, ou qui étaient anciens, ou qui étaient plutôt réaménagés récemment. Après, j'ai réalisé des entretiens individuels et semi-directifs, et ensuite une expérimentation à travers des activités collectives de sciences participatives. Donc, étape suivante. Je viens de dire. Donc, étape après. Ah. Donc, Bien, vous pouvez voir les choix des jardins partagés Piotte. Donc, comme j'ai dit, on a choisi en fonction de paramètres diversifiés, mais c'était aussi des jardiniers qui étaient volontaires, que par exemple, les pages jardins connaissaient déjà parce qu'ils avaient déjà fait des activités ou qu'ils avaient déjà on va dire, énoncé qu'ils étaient plutôt intéressés par les sciences participatives et par favoriser la biodiversité au sein de leur jardin. Donc, le jardin des Murières, c'est un jardin qui est ancien. Et une jardinière a dit lors de l'entretien qu'il y avait une biodiversité des jardiniers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jardins. Il y a des jardins qui viennent seulement pour aspect social et d'autres qui viennent plus, par exemple, pour cultiver vraiment leurs légumes ou d'autres plus pour entretenir les roses et les plantes ornementales. Et ça se situe dans un coin d'un parc au cinquième. Après, le jardin du Moulin Vert, c'est un jardin assez récent qui a peu d'adhérents, mais il y a pas mal d'aménagements dans la biodiversité. En fait, des jardinières, soit ils ont fait de eux-mêmes, soit ils sont allés dans un autre jardin qui s'appelle Graines de biodiversité et au gars ils ont appris, puis après ils ont essayé de refaire eux-mêmes dans leur jardin. Après, le jardin d'Ornano, c'est un jardin ancien mais qui a été réaménagé récemment pour vraiment être un jardin partagé d'habitants. C'est un petit jardin qui est assez urbain et c'est plutôt des jardins du week-end, c'est-à-dire qu'ils vont venir une ou deux fois par mois. Et entre-temps, c'est une régie de quartier qui entretient, surtout en été. Mais avec le confinement, je n'ai pas pu les voir avant le confinement. Donc, c'était un peu compliqué les entretiens. Et comme leur jardin a été fermé pendant le confinement, c'est difficile de mobiliser après. Donc, j'ai réalisé que des entretiens. Et le jardin du sous-bois des Potageons, c'était un jardin qui est en phase de création et d'accompagnement lors de mon stage. Mais comme ça s'est arrêté avec le confinement, on n'a pas continué. Après, donc, les entretiens. Donc, j'ai réalisé 10 entretiens avec des jardiniers et des jardinières. C'était au début dans les jardins où on se battait dans les jardins puis par téléphone. Et en fait, c'était une étape importante puisque avant de réaliser les activités collectives, savoir qu'est-ce qui se passait dans les jardins, comment ils percevaient déjà les sciences participatives et aussi plus comment ils se sentaient par rapport au jardin. Et ça permet d'avoir une démarche de rencontre et de dialogue. Et donc, 4 thématiques ont été abordées. Donc d'abord, le rapport entre jardinier et son jardin, notamment depuis combien de temps il est dans le jardin, pourquoi il vient au jardin. L'état des pratiques, ça c'était important puisque comme on veut sensibiliser aux pratiques environnementales à travers les sciences participatives, il faut déjà savoir ce qu'il y a déjà présent dans les jardins. Après, observation et la représentation de la biodiversité. Et aussi, c'est un point important puisque dans les sciences participatives, en tout cas, la salle de la biodiversité, la première étape, c'est d'observer. Donc, savoir si déjà ils observaient en fait d'eux-mêmes hors des sciences participatives et aussi quel lien ils avaient par rapport aux sciences participatives. Après, les activités collectives. Là, j'ai réalisé 3 séances dans 2 jardins sur observation des bourdons et des papillons. Donc, sur la droite, vous pouvez voir le protocole. Donc, en fait, on se balade en quelque sorte dans le jardin pendant 5 minutes ou un quart d'heure. On regarde toutes les espèces qu'on a. Et le protocole nous propose des fiches de comptage, des fiches d'identification, comme vous pouvez voir en bas. Par exemple, sur les bourdons, c'est pattern, c'est-à-dire les différentes bandes et différents coloris pour identifier les bourdons. Après, on note les observations. Par exemple, aussi, donc, qu'est-ce qu'on a observé, combien d'espèces on a observé, pendant combien de jours on a observé. Et régulièrement, on va mettre les données sur Internet. Et donc, avec les jardiniers, on a réalisé ensemble des étapes. Mais les séances étaient quand même limitées avec le confinement et surtout, comme elles étaient assez rapprochées, c'était difficile de voir s'il y avait vraiment une démarche durable entre les jardiniers. Et pendant ces séances, on ne se passait pas forcément en tant que naturaliste, mais plus vraiment en tant qu'animateur pour essayer de discuter ensemble, de réfléchir ensemble à ce qu'on observait avec les jardiniers pour faire un apprentissage plutôt collectif. Et c'est souvent des fois mis en avant dans les programmes de sciences participatives comme bénéfice d'apprendre par soi-même également. Et à la fin de ces séances, donc j'ai réalisé un questionnaire bilan pour savoir les avis sur les séances, est-ce qu'ils ont une approche différente, est-ce qu'ils veulent continuer la démarche entière de sciences participatives et qu'est-ce qu'ils ont observé et appris. Mais le questionnaire a quand même été assez limité puisque les séances n'étaient pas trop sur le terme et puis les jardiniers n'ont pas forcément tous répondu au questionnaire. Et donc, grâce à ces entretiens et ces séances collectives, non, essaye juste d'avant. Donc j'ai réfléchi à biodiversité et sciences participatives au sein des jardins. Donc j'ai découpé en plusieurs étapes. D'abord, les motivations des jardiniers, les pratiques et ce qui a découlé de ces pratiques et de ces motivations. Et donc on a vu qu'on a, en fait, j'ai étudié sur la conservation de la biodiversité. C'était, on va dire, ma question un peu principale. Et donc d'une part, à des pratiques qui sont plutôt présentes spontanément dans les jardins partagés. Et finalement, beaucoup de jardins partagés sont déjà actifs dans la biodiversité. Et d'autres, en fait, en parallèle, il y a celles qui sont plutôt apportées par la démarche de sciences participatives. Quelque sorte, le protocole des programmes de sciences participatives va pouvoir dicter peut-être des pratiques. Et donc là, j'ai recensé mes résultats sous la forme de schémas. Donc ces schémas sont assez linéaires, mais en réalité, en fait, il y a plein d'interactions entre les différentes parties. Donc d'abord, les motivations, qui sont par exemple rencontrer et être en collectif, partager, être en contact avec la nature, ça découle des pratiques comme jardiner, observer, reconnaître. Et ça va entraîner d'une part des pratiques environnementales, par exemple pratiques écologiques, on va dire tout ce qui est à permaculture, à rotation des cultures. Et aussi, ça est directement en faveur de la biodiversité. Par exemple, de nombreux jardins, soit avec des zones de friche, soit avec des hôtels à insectes. Et aussi, certains jardiniers ont répondu qu'ils aimaient bien participe à ce jardin pour répondre aux défis locaux, c'est-à-dire avoir de la nature en vie, aussi lutter contre la pollution. Par exemple, certains jardins étaient sur d'anciens endroits pollués. Et donc ça, on pourrait dire que ça agit directement sur la biodiversité au niveau local. Et en parallèle, il y a des actions plus de sensibilisation. Donc là, les motivations et pratiques sont assez similaires, mais on peut mettre en avant donc être en contact avec la nature, échanger et mettre en place des parcelles pédagogiques. Donc ça va favoriser les contacts avec la nature, ça va permettre de sensibiliser, d'apprendre et de faire évoluer les comportements. Et donc ça participe de manière indirecte à la conservation de la biodiversité. Et par exemple, une jardinière est venue au jardin plus pour rencontrer, partager, et avait du temps libre. Et au fur et à mesure, elle dit qu'elle a évolué son comportement, qu'au début, elle n'était pas du tout intéressée à protéger la biodiversité, et que même en dehors, elle s'est mise à plus agir. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un partage et un échange entre différents jardiniers. Et après, plus au niveau des sciences participatives. Donc là, les motivations, c'est lié aux entretiens, notamment sur la connaissance et la curiosité pour encourager de nouvelles pratiques et contribuer à la science. Ça, c'était les motivations que les jardiniers ont indiquées lors des entretiens. Et après, des pratiques qui sont liées au protocole, en fait, et comme observer ou échanger. Et ça, finalement, elles sont assez similaires qu'on pourrait qualifier, qui sont déjà présentes dans les jardins. Mais j'en ai vraiment insisté qu'ils avaient l'impression que c'était différent, puisque avant, ils venaient pour jardiner et indirectement, ils observaient, par exemple, ce qu'ils voyaient. Et là, en fait, le but principal, c'était d'observer et d'essayer d'identifier. Et donc, ils avaient l'impression d'avoir une nouvelle approche du jardin. Et ils appréhendaient aussi la biodiversité au jardin sous un autre angle. Ils y voyaient, par exemple, tous les jours ou pas, mais en tout cas à chaque fois qu'ils venaient, mais ils arrivaient plus à identifier. Mais après, comme mon étude a été plutôt sur court terme, surtout les séances collectives, il est difficile vraiment de savoir l'impact. Et aussi, à la suite des études, on a fait un temps d'échange collectif avec différents jardins, et ça a permis qu'ils échangent entre eux sur leurs pratiques et tout. Et donc, pour finir, les limites de l'étude et les difficultés qu'ils ont pu avoir lors de cette démarche. Donc, notamment sur l'étude, alors, l'échantillon n'était pas forcément assez représentatif, puisque, comme on voit dit au départ, c'était que des jardins volontaires qui étaient déjà sensibilisés à la biodiversité. Et c'était sur un temps assez limité, notamment sur les sciences participatives, où ils n'ont pas pu forcément réaliser des actions par eux-mêmes ou s'organiser au sein d'un collectif. Et il faudrait comparer avec d'autres études pour voir vraiment l'impact. Après, sur les deux jardins qui ont pu participer aux activités collectives, la démarche est quand même durable. Je ne sais pas trop comment ça a évolué. Et après, l'analyse des informations était seulement sur un rapide questionnaire. Donc là aussi, il faudrait plus une étude sur le long terme. Et aussi, ce qui est important de considérer, c'est que les sciences participatives, elles permettent de sensibiliser à la biodiversité. Mais ce n'est pas, on va dire, que ça. Il y a aussi le fait que les jardiniers, ils avaient vraiment envie d'apprendre juste de nouvelles connaissances, de vraiment mieux connaître leur jardin au niveau naturaliste.
Alors, du coup, je reprends la parole juste pour faire un petit point sur, puisque Jeanne parlait en fait des limites de l'étude. Là, je vais juste faire un petit point sur la question des limites pour le Pass Jardin aujourd'hui. Normalement, les protocoles font qu'on avait créé un accord avec le Musée national d'histoire naturelle pour récupérer en fait les données. Et que ensuite le travail qu'on voulait mettre en place, c'est qu'il y ait une restitution dans les jardins des enquêtes qui avaient été faites par les jardiniers, par les jardinières. Et il s'avère qu'avec le confinement, on n'a pas pu aboutir sur cette démarche-là. Donc là, on est encore sur quelque chose qui n'est pas abouti et où du coup la connaissance et la cartographie des jardins et de la biodiversité, on n'y est pas encore arrivé. Et du coup, la question aussi, bon, c'est ce que disait Jeanne, hein, on est parti là sur une expérimentation sur 4 jardins. Il y a d'autres jardins qui font des sciences participatives avec ou sans le Pass Jardin. Du coup, voilà, la question du maillage territorial à la fois sur la métropole, et là j'ai bien vu la question de Patrick Grimaud. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure quand on aura fini sur les territoires ruraux, où effectivement ces démarches-là, elles pourraient être essaimées, bien évidemment, sur d'autres types de territoires. Du coup, là, je vais terminer sur la question du déploiement, puisque là, on a vu effectivement que ça, en l'espace de 2 ans et demi, il y a eu vraiment une prise en compte de cette question par le Pass Jardin, mais également des expérimentations diverses qui ont été faites. Je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de créer un réseau à la fois local et national sur cette question des CIPA dans les jardins, avec des partenariats qui commencent à s'affirmer davantage, entre autres avec Espèces par Million et avec la LPO, qui étaient déjà des relations qui étaient déjà plus anciennes, et puis des financements qui commencent à arriver sur ces taxes spécifiques, hein, que ce soit par un appel à projet qu'on a obtenu, qui est en cours là sur avec Espèces par Million, avec la Fondation Nature et Découverte. C'est aussi l'appel CO3, Jardin et Sciences Partagées, qu'on a déposé il y a 2 ans et qu'on n'a pas eu. Mais comme là, il y a un nouvel appel d'offres qui se repositionne, on a envie sans doute de se réinscrire dans cette démarche-là. Voilà, et donc de continuer le déploiement qu'on a commencé, excusez-moi, à faire. Et donc, autre forme de déploiement, c'est celle de, je dirais, d'autres recherches collaboratives qui sont mises en place ou avec la participation c'est-à-dire des recherches qui sont portées par des étudiants du master sociologie et anthropologie appliquée au développement local. En 2017, on avait fait une première recherche collaborative pour le Pass Jardin sur la question des fonctions nourricières des jardins partagés. Ça, c'était le premier travail qu'on a fait en collaboration. L'année dernière, et là, c'était pas pour le Pass Jardin, c'était une commande qui avait été formulée par l'agence d'urbanisme et par la métropole sur le plan Canopée, et où du coup le Pass Jardin avait également participé au nom des jardins. Et l'étude qui vient juste d'être faite la semaine dernière, qui vient d'être bouclée par la promotion de cette année sur le réseau de l'association Pass Jardin et sur ses ouvertures dans les années futures en lien avec le projet pédagogique. Excusez-moi, le projet associatif. Dernier point sur le déploiement pour la recherche. Alors, je dirais que il me semble ce qui m'intéresse et je pense qui intéresse aussi le monde de la recherche, c'est réfléchir sur la question des conditionnements du changement. Alors que ça soit sur les questions de l'organisation interne, un petit peu comme j'ai pu le faire dans mon début d'intervention, c'est-à-dire sur la création d'un projet, comment on fait de la recherche-développement dans une structure associative de ce type-là. Mais c'est aussi les conditions de changement dans les jardins autour des processus d'agroécologisation, de changement dans les pratiques. C'est aussi au niveau je le disais tout à l'heure, du Musée national d'histoire naturelle, le projet qu'on avait, qu'on n'a pas obtenu, mais on ne désespère pas de l'obtenir d'une manière ou d'une autre. C'est de réfléchir sur les boucles de rétroaction. Comme je disais tout à l'heure, normalement, dans les sciences participatives, les bases de données, c'est ce que disait Florian, elles sont récupérées, elles sont étudiées d'un point de vue scientifique, mais les amateurs, ils n'ont pas nécessairement le retour du travail qu'ils ont fait. Et donc, nous, l'objectif de l'appel de recherche, c'était en fait que les jardiniers et les jardinières puissent avoir un retour sur les expérimentations qui sont faites, sur les données qui ont été collectées, et qu'on voit en gros si le travail qui est mis en œuvre au sein des jardins favorise ou non la biodiversité. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Et puis, bien évidemment, pour que ce soit pour moi ou pour d'autres collègues, comme par exemple Laetitia de Nantes, c'est aussi de participer à des colloques, à des séminaires de recherche et de continuer à travailler sur cette question de la transition écologique et solidaire. Et puis, un dernier point sur lequel je pense nous reviendra Florian tout de suite, mais c'est juste de dire que le Page Jardin, il y a un projet de réseau, donc d'un groupement de recherche qui est porté par le CNRS, qui s'appelle donc, c'est un projet là aussi, qui s'appelle RECIP, donc Recherche en commun interdisciplinaire sur les problèmes environnementaux, sanitaires et sociaux, dans lequel il y a un axe sur la question de la territorialisation de la recherche collaborative et dans lequel le Page Jardin s'est proposé comme collaborateur également. Ah, excusez-moi, j'ai été trop vite.
Alors, en conclusion, quelques petites remarques sur l'un des enjeux des sciences participatives au jardin et auprès de jardiniers et jardinières. C'est bien sûr celui de la démocratisation, c'est-à-dire est-ce qu'on étend le maillage et est-ce qu'on fait effectivement participer activement tout un chacun qui s'intéresse. De ce point de vue-là, il y a une règle qui a été édictée pour, c'est pas une règle obligatoire, mais c'est une règle qui a été observée, on va dire, pour l'ensemble des dispositifs qui utilisent le web comme méthode pour recruter et démocratiser leur recrutement. C'est ce qu'on appelle la règle des 90-10, c'est-à-dire qu'il y a 90% de l'information produite par les sciences participatives qui sont réalisées par 10% des contributeurs et contributrices. Et inversement, il y a 90% des contributeurs et contributrices qui participent pour 10% de la donnée qui est effectivement collectée. Donc ça, c'est une règle qui est observée qui vient au site web 2 et la démocratisation autour des sites web en général. Et là, pour la question du Page Jardin et les opérations qui ont été menées, on peut s'expliquer, on peut un peu décaler le propos de ce point de vue-là et voir d'autres perspectives. D'une part parce que les sciences participatives en général, celles qui sont liées à des protocoles traditionnels, on va dire les 150 protocoles qui existent en France, généralement sont liées à des opérations naturalistes et à des groupes naturalistes qui étaient derrière ou qui se trouvent une manière de se renouveler. Et là, avec les observateurs au jardin, on a une autre population que simplement des naturalistes. Donc ça peut aussi susciter des intérêts, notamment parce que les jardiniers sont d'une part des observateurs et tout le travail qui a été mené, c'est aussi de les rendre plus observateurs. Mais ce sont aussi des intervenants de la biodiversité puisqu'ils font du jardin. Donc ça change aussi les pratiques par rapport à des sciences participatives qui sont liées uniquement à de l'observation. Donc là, on a une autre population. Et on a une autre population qui vaut aussi peut-être pour un autre, c'est peut-être le une autre partie de la réponse qu'on peut avoir sur la question des contributions qui est de repartir non pas des naturalistes qui se montent en réseau pour faire des sciences participatives, mais repartir des pratiques de nature qui sont très distribuées dans la société française, avec des jardiniers qui sont effectivement très très distribués, qui sont pas forcément liés à des catégories socioprofessionnelles particulières, et donc repartir de cette pratique de nature pour comprendre comment se constituent en fait des formes d'attention qui vont être captées ou pas par les sciences participatives, mais c'est un peu ça le point, et des formes d'attention qui sont différentes partiellement de ce qui constitue beaucoup de sciences participatives, notamment celles du Muséum de Vigie Nature, qui sont liées à une sorte d'érudition traditionnelle des milieux naturalistes. Et là, on peut se demander si avec le Pas Jardin, on n'est pas sur d'autres créneaux, d'autres formes d'attention qui peuvent être de l'érudition, mais qui sont peut-être autre chose. Et du coup, se pose la question de, à travers la territorialisation qui a été présentée par Béatrice du Pas Jardin, enfin des sciences participatives au Pas Jardin, qui prend le problème de manière transverse à un territoire donné. On peut se demander si ça peut pas être l'occasion d'un réencastrement en fait de cette observation naturaliste dans des réseaux de sociabilité. Le Pas Jardin, c'est aussi a pour vocation aussi de faire du lien social, notamment dans les quartiers. Et donc, est-ce que là, avec les initiatives de sciences participatives, il n'y a pas une possibilité de refaire du lien et de réassocier la question de l'observation de la nature et la question du lien social. Et ça se jouera beaucoup, et ça commence à être réfléchi, notamment par Romain Julliard au Muséum. Ça se jouera beaucoup sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire le jeu entre métadonnées et données, puisque à l'heure actuelle, les données sont exclusivement sur les espèces. Et là, on peut se demander s'il n'y aura pas un nouvel équilibre à faire valoir de données retirées par les sciences participatives et par les laboratoires et les associations qui sont derrière, des données qui soient non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives, avec des commentaires qui pourraient rentrer dans la donnée, non plus être limitées à la métadonnée. Et donc ça, c'est tout un travail qui commence à être mis en place sur cette extension de peut-être donner des petits flashs, des petits tags comme ça sur des données qui ont été obtenues en famille ou lors d'une journée collective des jardiniers ou des jardinières. Enfin, tout un détail sur ce qui constitue l'environnement social, on va dire, de la donnée, qui pourrait rentrer de plus en plus dans les données et non pas être limité aux métadonnées. Voilà. Bien, je crois qu'on a tenu 57, on a tenu aux 50 minutes.
Donc. C'est parfait, merci beaucoup. Ouais.
Merci à vous.
On a du coup une petite demi-heure pour discuter. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le côté. C'était tout à fait passionnant et on voit bien du coup aussi ce mariage entre sciences humaines et sciences de la nature, qu'on a tendance à opposer, à séparer, et qui là se retrouve dans un sur un même projet et sur des pratiques où elles apportent chacune des éclairages différents et complémentaires et tout à fait intéressants. Moi, je voulais poser une petite question avant de laisser la parole aux questions des auditeurs et auditrices. C'était par rapport au rapport à la science, puisque vous avez beaucoup évoqué que ces pratiques-là permettent de faire évoluer le rapport à la biodiversité que les jardinières peuvent avoir. Mais est-ce que vous avez noté aussi que ça peut faire évoluer leur rapport à la science en tant que telle et à la méthode, à la démarche scientifique, peut-être notamment pour des personnes qui peuvent en être éloignées ou avoir des a priori sur la démarche scientifique en général ou les méthodologies d'observation qui ne connaissent pas nécessairement ces pratiques-là. Est-ce que ça peut permettre aussi de faire évoluer le rapport aux sciences, alors sciences de la nature du coup de l'observation, mais aussi peut-être aux sciences humaines quand vous êtes aussi dans des pratiques comme ça? Je pensais à Jeanne et Béatrice en particulier pour cette question.
Jeanne, tu veux peut-être commencer sur... je ne sais pas.
Peut-être d'un point de vue général, juste dire une chose, c'est que on assiste à effectivement des sondages sur le doute généralisé sur les sciences, et c'est pas le cas des sciences participatives qui sont plutôt bien valorisées et bien vues par d'une manière générale.
Moi, par rapport, je disais plutôt. Je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers au début qui ne connaissaient pas les sciences participatives et qui avaient peur quand on leur disait que c'était un protocole, ils avaient peur que ce soit trop restrictif et que ce soit, on va dire, assez barbant finalement. Mais que finalement, et que même rentrer, par exemple, puis donner, elles avaient peur que ce soit trop compliqué. Et quand il y avait les activités, elles trouvaient ça finalement, en fait, elles se rendaient pas forcément compte que c'était un protocole. Et donc, ça pouvait dépasser la science de cette certaine façon. Et même si elles étaient souvent, la plupart, pas du tout scientifiques, elles appréciaient un peu contribuer à la science d'une certaine façon.
Et en ce qui me concerne, je pense que on a eu ces mêmes difficultés-là nous-mêmes, c'est-à-dire quand on est rentré dans les protocoles, d'en trouver certains qui étaient quand même assez complexes à s'approprier. Et donc, du coup, d'arriver aussi à des formes plus simplifiées, c'est-à-dire à choisir aussi des protocoles plus abordables, parce que déjà, je dirais qu'avant que Jeanne n'arrive, notre question, c'était qu'effectivement, il n'y a pas d'écologue au Pages Jardin. Et que du coup, on était confronté à des questions où nous-mêmes on ne comprenait pas, et que du coup, on est arrivé aussi à faire des fiches qui étaient plus simplifiées, et de pouvoir aussi s'adresser à des enfants, puisque dans les événements pour certains qui ont eu lieu, il y a des enfants, enfin des parents qui viennent avec leurs enfants, et donc du coup, de faire des expérimentations avec eux, c'est aussi de, comment dire, de retraduire les protocoles. Et ils sont sur le site du Page Jardin, si vous voulez aller les regarder. Hein. Il y en a certains qui sont mis à disposition. Mais merci pour cette question. Je ne m'étais jamais posée comme ça. Puis je me dis, voilà, elle mérite d'être. Je vais la garder aussi, puisque en tant qu'enseignante, j'ai aussi un cours de méthode d'observation d'anthropologie. Mais voilà, je ne m'étais pas posée ces questions de cette manière-là. C'est une bonne idée.
Alors,
Merci.
il y a juste pour compléter
Après,
dessus, il y a vendredi dernier, on avait il y avait une journée d'études sur les bases de données naturalistes citoyennes, et il y avait Romain Julliard qui est l'un des précurseurs des sciences participatives au niveau national de Vigie Nature notamment. Et qui avait intitulé de manière très éloquente son propos, c'était les sciences participatives big data et rayé big pour marquer quality data et artificielle intelligence et rayé artificielle pour mettre collective intelligence. Et je pense que ça résume bien effectivement le propos de l'attrait que peut avoir maintenant les sciences participatives dans cet univers scientifique qui permet par le nombre de pas dépasser le caractère comment dire approximatif par moment de l'observation.
Super. Je vais poser deux questions courtes qui sont posées dans le chat et puis je donnerai la parole à Georges Boyer après à l'oral parce qu'elle est un petit peu longue sa question pour que je la lise. Donc on a Denis Hertz qui nous demande si la question de l'impact du réchauffement climatique sur la végétation cultivée, démarche du type phénoclime, est-elle un axe de recherche émergent? Et puis je pose aussi celle de Bertrand Bocquet, un petit peu dans le même genre, qui demande si dans cette perspective de sensibilisation et de formation à un protocole de recherche, y a-t-il des questions de recherche qui émergent? Je pense par exemple à la question des sols pollués qui a été évoquée, qui pourrait intéresser plus directement les jardiniers, et comment intégrer d'autres chercheurs de disciplines différentes. Je vous laisse répondre du coup à ces deux questions de questions d'axes de recherche nouveaux, de questions nouvelles.
Sur la première, je connais pas bien phénoclime. C'est effectivement une science participative qui s'occupe de phénologie, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de rapport des saisons sur la végétation et sur la faune. Donc, où on étudie le débourrage des arbres, par exemple, à quel moment de la saison ça passe. Je pense que c'est une. Si je me rappelle bien, ils sont plutôt basés dans les Alpes. Parce que c'est quelque chose qui est très lié à l'étagement de la biogéographie en altitude et de voir comment en fait le niveau de débourrage des arbres par exemple évolue dans le temps en fonction de l'altitude. Donc il y a cette dimension-là qui est très forte, qui me semble être moins pertinente sur une géographie de la métropole où la question de l'altitude joue quand même relativement peu, quoi. Enfin, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une vraie question sur le changement climatique qui est étudiée par Phénoclim.
L'autre question, c'était sur les sols.
Les sols, oui.
Question, ouais, des sols, et notamment des sols pollués que vous
alors,
avez.
Il y a eu une recherche il y a quelques années, alors je ne sais plus quand, 2015 peut-être, autour d'un programme qui s'appelle J'assure, dans lequel il y avait sciences sociales, sciences écologues, INRAE, enfin bref, il y avait une équipe de recherche pluridisciplinaire. Qui a travaillé principalement sur, enfin principalement, dont un des axes de travail était des jardins partagés. Et où effectivement, quand on se rend compte qu'il y a un sol pollué dans un jardin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut cultiver, etc. Donc il y a des choses qui ont déjà été écrites dessus. Il y avait Elisabeth Rémy aussi,
oui,
et Perrine Van de... Perrine Van de...
Van de Broek.
Van de Broek, merci. Qui est à l'ISARA, donc sur Lyon. Et il y a une étudiante du master SADL, Claire Mandon, qui a travaillé là-dessus en phase d'expérimentation, c'est-à-dire elle, son travail pour le Place Jardin, enfin, c'était pas pour, je sais plus si c'était pour le Place Jardin ou pour les jardins, elle, son travail, c'était d'accompagner par une expérimentation si les jardins étaient pollués, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Est-ce qu'il fallait suspendre la culture? Est-ce qu'il fallait changer de type de production dans les jardins, etc. Donc, il y a déjà des protocoles qui ont été réfléchis sur ces questions-là.
Et l'avantage, et là, c'est là où les sciences humaines et sociales peuvent avoir un rôle particulier, puisque ce que montrait très bien Claire Mondon, c'est que il n'y avait pas de co-construction de la connaissance des jardins pollués dans le dispositif J'assure. C'était des écologues qui venaient avec leurs instruments de mesure, qui mesuraient, qui repartaient sans aucune confrontation avec la connaissance locale et la pratique de jardinage local. Et donc, ça posait des tas de problèmes de communication ensuite entre les résultats de l'étude écologique sur les sols, et puis, enfin, écologique et pas seulement écologique, hein, et puis la pratique des jardiniers et jardinières. Et là, il y avait vraiment un maillon qui manquait et que Claire Mandon a essayé de combler justement pour faire le lien et voir les stratégies adaptables au jardin en fonction de l'état des sols, quoi. Parce que ça peut être assez déprimant de se dire qu'on ne peut plus jardiner parce que le sol est totalement pollué par le mercure ou autre, quoi.
Tout à fait. J'ai mis dans la conversation, la boutique des sciences avait accompagné en 2014 une recherche sur, avec les jardins collectifs de villes urbaines, justement sur cette question des pollutions des sols et des jardins. Voilà. Il y a le lien dans la conversation pour ceux et celles que ça intéresse. Question de Louis Champal.
La question. Bertrand Bouquet, désolé, Université de Lille. Non, c'était, oui, j'avais évoqué les sols pollués, mais en fait, ma question, c'était, est-ce que ça fait émerger d'autres questionnements? En fait, le fait de faire des sciences participatives, je suppose qu'on découvre un certain nombre de choses d'interaction entre la biodiversité et puis l'environnement, et est-ce que ça fait finalement émerger des questions pertinentes pour la recherche, le fait d'être acculturé justement à un protocole de recherche.
Je ne sais pas comment aborder cette question.
Je ne sais pas comment. Enfin, il y a une dimension qui est en train d'être travaillée au muséum, notamment grâce au Page Jardin et puis dans le collectif national Sciences Participatives et Biodiversité. C'est un peu une nouvelle dimension qu'on est en train de, sur lequel il faut qu'on table, qui est une question de recherche qui est émergée en fait de l'organisation telle qu'elle est produite par les 150 programmes de sciences participatives en France, c'est celle de la transversalité. Et là, il y a une vraie question de recherche, y compris sociologique et anthropologique, sur qu'est-ce qu'on dit de la synergie des espèces. Au niveau d'un jardin, par exemple, au niveau d'un parc naturel régional, c'est aussi une question qui est portée par la Fédération des parcs naturels régionaux. Qu'est-ce qu'on aborde quand on aborde cette transversalité et en quoi on peut aller vers aussi des considérations plus écologiques, du coup, de co-occurrence d'espèces hôtes, par exemple, de co-occurrence entre une certaine végétation et certaines espèces d'insectes ou des choses qui sont peu étudiées, enfin qui sont peu remontées par construction par les sciences participatives parce qu'elles fonctionnent en silo en fait par taxon en fait très très généralement. Et c'est vraiment une question qui se pose maintenant de plus en plus avec aussi une évolution vers de l'information récoltée par les sciences participatives qui n'est plus seulement une espèce vue et on ramène l'information, mais qu'on essaye de développer par ce qu'ils appellent des inventaires semi-structurés, c'est-à-dire où on observe une liste d'espèces, c'est-à-dire l'espèce plus tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est quelque chose qui est très prometteur en termes de connaissances dans le futur.
Je vais donner la parole à Patrick Grimaud qui lève la main dans la conversation, et puis Georges Goyer ensuite.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Donc, je suis Patrick Grimaud, chargé de mission à Cap Rural. Cap Rural, c'est un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local en rural pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être vous nous connaissez ou pas, c'est pas grave. En tout cas, je voulais prendre juste la parole. J'ai posé une question là tout à l'heure sur la question des transferts de vos travaux aux territoires ruraux, parce que je vais coordonner un groupe de travail régional sur les jardins ruraux et les enjeux de développement local, avec notamment le laboratoire d'études rurales de Lyon, et puis l'ISARA, vous parliez de Perrine tout à l'heure, donc c'est bien d'elle dont il s'agit. Tout ça pour vous dire que ce sujet-là, nous allons le prendre en main. Ça fait un petit moment qu'on y réfléchissait et qu'on est preneur, nous, de passerelles avec les réflexions des territoires urbains, parce que peut-être ces territoires-là avaient quelques longueurs d'avance ou des préoccupations, ou alors peut-être que les territoires ruraux ne se rendaient même pas compte qu'il y avait des jardins dans le rural et que finalement ils faisaient comme Monsieur Jourdain, de la prose sans le savoir. En tout cas, ce sujet, on veut le reprendre parce que c'est un sujet à enjeu de transition sociétale, sociale, alimentaire, économique, etc. Donc voilà, je suis preneur de passerelles et si je suis venu là ce soir, c'est pour ça, c'est pour créer des liens entre vos réflexions et nos sujets.
Merci beaucoup. Alors bien évidemment, Cap Rural, je suis responsable du master sociologie appliquée au développement local, donc Cap Rural, je le connais bien depuis très longtemps. Et oui, je connais, ça doit être, c'est un projet qui est aussi avec Claire Delfosse, non ? Duller ?
Oui.
Oui, c'est ça ?
Oui. Okay.
Je dirais que on peut garder contact peut-être en dehors de cette conférence, parce que bien évidemment, après, là, si je reprends ma casquette Page Jardin, je le disais en introduction, c'était aussi le réseau régional. Donc du coup, il y avait beaucoup de jardins qui étaient accompagnés, qui étaient sur des territoires ruraux pour le coup, hein. Et qui du coup, comme la maille est différente en termes d'accompagnement financier, il n'y en a plus au niveau de la région. Du coup, le Page Jardin s'est restructuré davantage sur le territoire métropolitain, mais ce qui n'empêche qu'il continue d'y avoir des accompagnements spécifiques. Et là, c'est des questions qui sont en train d'être développées au niveau de l'association. Mais plutôt sur le plan recherche, oui, moi je travaille aussi sur des jardins ruraux, que ça entre autres en Ardèche, où il y a aussi des dynamiques, où je vois bien qu'il y a des questions qui sont similaires, entre autres sur le développement des processus d'agroécologisation, sur la réflexion sur la biodiversité. Alors à ma connaissance, pas encore sur les SIPA. Mais voilà, c'est peut-être des choses effectivement à mettre en réflexion.
Est-ce que Georges Goyer veut poser sa question à l'oral ? Il est toujours là. Sinon, je peux la tenter, mais elle est longue. Non, je crois qu'il est peut-être plus là. Bon, c'est pas grave, je peux poser sa question quand même. C'était sur l'insertion de votre démarche dans une boucle rétroactive entre production, transformation et consommation alimentaire. Voilà, je pense que c'est l'idée, c'est de faire du lien avec un projet qu'il suit de PAT, de projet alimentaire territorial. Donc voilà, est-ce qu'il y a aussi une réflexion au Page Jardin sur cette boucle?
Je peux dire deux mots?
Oui.
Oui. Ah bah oui.
C'est-à-dire qu'on part depuis 2017, la MJC fait une AMAP, un jardin partagé, des ateliers cuisine et des repas pour la convivialité. Et donc, c'est à partir du problème de qu'est-ce qu'on mange, mais aussi quelles sont les questions de santé à propos de cancer, surpoids, trop de sucre, diabète, qu'on essaie de voir comment on peut construire un dispositif qui intervienne à la fois sur la question de la production, de la consommation et de la transformation des pratiques culinaires. Donc, c'est-à-dire que, et ceci dans la transition. Donc, comment vous, par rapport à ce genre de préoccupations qui partent donc des problèmes de santé et de l'alimentation, dans les jardins partagés que vous suivez, s'inscrit votre démarche pour faire cette circularité entre production, transformation et pratiques culinaires?
Ok. Alors, est-ce que je peux vous demander d'où vous êtes, monsieur?
Charlieu, c'est le nord de la Loire.
Ok, merci. Alors, là, double casquette une nouvelle fois. Alors, d'abord sur le Page Jardin. Le Page Jardin, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est qu'on avait fait un travail de recherche il y a 3 ans, je crois, mais 2017, sur la question de la fonction nourricière des jardins partagés. Et du coup, en fait, j'ai envie de répondre un peu ce que disait Florian tout à l'heure, c'est-à-dire que les jardins partagés, alors qu'il ne faut pas confondre avec les jardins ouvriers, les jardins familiaux, ont été créés en lien avec les questions de politique de la ville et plus particulièrement sur l'axe action sociale et lien social, développement du lien social dans les quartiers. Donc la question alimentaire, je dirais qu'elle est bien évidemment les.
Je ne vous entends plus, là.
Oui, on ne vous entend plus. On a perdu. Béatrice, c'est bon, on t'entend à nouveau, je crois.
Connexion.
On t'entend, Béatrice.
Ouais. Oui, ça a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, j'en étais. Oui, il y a des jardins qui sont très productifs et qui ont été construits autour de cette problématique de nutrition et d'autosuffisance alimentaire, mais ils sont peu nombreux. Ces jardins-là, bien évidemment, réfléchissent au lien production, transformation et consommation. Voilà, ça c'est un premier niveau de réponse. Il y en a d'autres qui effectivement produisent, mais ne veulent pas être dans cette dynamique qui les renvoie à la notion de production égale travail, et du coup vont davantage accentuer leur manière de réfléchir leur jardin ou de parler de leur jardin à partir des questions du lien social. Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas, mais c'est pas ce qui est central. Ça, c'est le niveau de réponse, je dirais, autour des jardins et de leurs différences. Et là, je peux vous renvoyer à ce rapport de recherche qu'on a fait il y a quelques années déjà. Et sinon, là, je prends la casquette plutôt chercheur sur la question des systèmes alimentaires locaux. Je suis spécialiste des circuits courts alimentaires, donc ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là. Et je dirais que ce qui me semble intéressant en ce moment, et qui se passe en lien, entre autres, avec les pâtes, c'est effectivement, il y a plein de formes qui émergent sur les territoires, entre autres dans la région lyonnaise, mais pas que, sur comment créer des espaces, alors qu'on peut appeler des... Sur Lyon, ça va être une maison de l'alimentation solidaire, je crois que c'est ça qui est en train d'émerger, et qui réunit différents partenaires, un petit peu comme vous êtes en train de le proposer. Et l'histoire, c'est de faire le lien sur des questions alimentaires qui réunissent à la fois des centres sociaux, des MJC, des structures associatives, qui peuvent être des jardins, par exemple, mais également des épiceries sociales. Et sur Lyon, il y a un projet qui est en cours de développement dans le 8e arrondissement et qui accompagne en fait quasi une dizaine de structures sur les questions de justice alimentaire ou démocratisation alimentaire, avec donc ces maisons qui existent déjà au Canada depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, je dirais qu'il y a une dynamique et que c'est voilà, je suis intéressée de savoir que vous faites ça aussi dans la Loire. Voilà, qu'il y a des projets de ce type-là dans d'autres, dans l'Est lyonnais, il y a des choses qui sont également en cours de réflexion. Donc, je crois que c'est une dynamique générale, à part qu'elle ne part pas nécessairement sur la question de la santé. À ma connaissance, elle part sur plutôt la question de la précarité, des précarités, dont la précarité alimentaire, et de l'éducation à l'alimentation, de travailler à l'interface aussi de cuisine participative. Voilà, donc il y a des synergies, c'est l'objet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc c'est un petit peu nébuleux, mais c'est des thématiques qui sont vraiment émergentes.
Il y a aussi, en fait, ce que vous avez dit en dernier, là, sur la précarité. Est-ce que vous pourrez nous donner les références là, de ce que vous faites, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment faire parce que le chat, on peut le garder. Après, comment ça marche, Hélène?
Alors, tu peux mettre dans le chat et puis je mettrai aussi dans le mail que j'enverrai en début de semaine prochaine où il y aura le podcast et puis de la séance et puis j'ajouterai les références avec.
Ok. Alors, juste à titre d'information, c'est que sur l'Université Lumière Lyon 2, il y a une chaire de l'économie sociale et solidaire et mardi soir de la semaine prochaine, il faut me penser à vous me faire envoyer le lien parce qu'il faut vous inscrire. Il y a une session sur la question de la justice alimentaire, mardi soir. Et puis, je pensais aussi à autre chose. Ça m'a échappé entre temps.
N'hésite pas du coup à mettre le lien aussi directement du coup dans la conversation.
Je ne le connais par cœur, donc ça marche pas ça.
Peut-être une autre, une dernière question ou vous voulez rester là-dessus? Non, je vais poser juste la question de Louis Champal qui demande donc bonsoir. En termes de données, les taxons et données naturalistes ont beaucoup été évoqués. Néanmoins, quelle place occupent les données sociologiques et ou anthropologiques et les partenaires de ces recherches collaboratives y ont-ils autant participé? Ça, c'est vrai que c'est une grande question, en particulier peut-être pour Florian qui travaille beaucoup sur les sciences participatives. C'est quelle différence de participation quand c'est de la science, quand c'est des sciences humaines, par rapport à quand c'est des sciences dites de la nature.
Alors, j'ai une réponse un peu évasive, mais qui mériterait de faire beaucoup de recherches dessus. Mais il se trouve que chez les ornithologues, il y a des sociologues. Et qu'il y a même des sociologues qui ont eu pignon sur rue en Angleterre, notamment dans les années 40, qui ont travaillé à partir de leur expérience d'ornithologue, et que les sciences naturalistes sont plus proches, on va dire, que de la sociologie ou de l'anthropologie, que ne seraient des sciences de physique de haute énergie ou des choses comme ça. Donc, il y a une vraie proximité, en fait, avec des tas de passerelles qu'on observe. Plus ça va et plus on s'aperçoit de la chose. Et dans les personnes qui sont importantes actuellement au muséum, il y a des gens dont les conjoints et les conjointes sont des philosophes, et qui sont eux-mêmes écologues. Et donc, il y a une vraie proximité, on va dire, entre observer les oiseaux, observer, avoir ce sens de l'observation qui, quand on fait de l'anthropologie, on fait de l'observation participante, par exemple. Il y a de plus en plus de sujets qui relèvent de l'interaction entre homme et animal, par exemple, qui sont portés par des anthropologues ou des sociologues et qui vont faire des incursions du côté de l'éthologie, par exemple, pour comprendre comment un chat se comporte avec des humains. Et ben, c'est bien de connaître le comportement type des chats ou leur caractère et qui se traduit par une certaine physionomie et puis réaction. Et voilà, donc il y a des tas de passerelles. Je pense qu'on est au début, mais plus on va creuser sur des sujets qui mettent en relation, comme vous dites, des taxons ou des animaux et puis des personnes, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de passerelles en fait entre les deux univers, et que les sciences sociales ont toute leur place. Y compris pour parler des animaux et des plantes. Enfin voilà, c'est totalement de plus en plus légitime et c'est totalement justifié aussi par des imports-exports en fait entre les disciplines sur les méthodes.
Alors, j'ai l'impression que la question portait peut-être plutôt sur est-ce que les partenaires non chercheurs en fait participent autant à la création de données quand c'est de la création de données sociologiques ou anthropologiques. Mais je vais donner la parole à Monsieur Champal parce que je vois qu'il lève la main, donc il précisera peut-être mieux sa question.
Du coup, vous aviez raison, Madame Chavot, sur la question. C'était plus par rapport à la place partenariale finalement au sein de la recherche collaborative. Des personnes avec qui vous allez travailler dans l'émergence des données qui tiendront davantage de la sociologie ou de l'anthropologie. C'est une question que je me pose parce que je vais être amené à travailler certainement sur un jardin à Lyon, l'îlot d'Amarante, qui fait partie du PAS Jardin, je crois.
Oui, tout à fait.
Mais davantage, je suis doctorant en information communication, c'est davantage sur le rapport au jardin et à l'institution que je vais interroger. Et réussir à mettre en place un protocole méthodologique qui finalement puisse inclure les acteurs de ces jardins dans l'émergence des données que je pourrais étudier ensuite. Voilà. Merci.
Et c'est tout l'enjeu de ce que je disais à la fin de la présentation, c'est-à-dire de décompartimentaliser les métadonnées, les données recueillies par les sciences participatives, c'est un enjeu actuel. Il y a par exemple, les commentaires qui peuvent affecter la donnée par des informations de type sciences humaines et sociales, ou des choses sur les émotions, ou sur un certain nombre de choses, sur les espèces, par exemple, réintroduire la notion d'espèces charismatiques ou d'espèces qui effectivement relèvent d'une appétence particulière pour les gens qui les observent, réintroduire cette dimension-là dans l'information qui est produite, c'est un gros enjeu. Et je pense que on est au début de quelque chose qui est en train de naître. C'est pas seulement des espèces rares ou des espèces ordinaires. Il y a toute une qualification qu'on peut faire des espèces et des taxons qu'on observe, que ce soit esthétique, que ce soit donc leur capacité à être observée par l'homme, leur affinité avec des thématiques particulières. On pense au loup, par exemple, qui est pas seulement le loup en tant qu'individu physique, mais qui est aussi l'univers qui va avec le loup. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de philosophes qui commencent à travailler sur ces questions. Et donc la porte est ouverte pour effectivement associer de plus en plus ce qui pourrait prendre la forme de commentaires aux informations de type taxonomique qu'on peut avoir.
Est-ce que je peux répondre à la question de Bertrand Bocquet là, sur les profils?
Bien sûr, ouais.
Comme le disait Jeanne tout à l'heure, il y a le travail qu'a fait Jeanne, donc on n'était pas sur un échantillon très représentatif, mais en même temps, comme on a mis en œuvre depuis plusieurs années les événements, la mise en place, etc., des sciences participatives, on n'est que dans les jardins partagés, c'est pas dans les jardins familiaux. Et peut-être que j'aurais dû le dire plus tôt. En tous les cas, sur Lyon, les jardins familiaux ne s'organisent pas du tout de la même manière que les jardins partagés n'ont pas les mêmes publics non plus. Alors peut-être que ça reboucle avec la question là sur la production dans les jardins. Les jardins familiaux sont des jardins productifs. Et du coup, on n'a pas fait d'événements dans ces jardins-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont plus difficilement amenés à des questions de ce type-là. On est davantage sur des jardins productifs et où du coup, y compris la question de l'agroécologisation des pratiques ou la mise en place de projets permaculturels ou d'agriculture bio, etc., et n'est pas évidente alors que c'est quelque chose qui est dans la charte des jardins partagés. Donc du coup, on n'est pas sur les mêmes dynamiques, ni en termes de population, ni en termes de pratiques.
Merci beaucoup. Est-ce que peut-être une dernière question, sinon on va clore, parce que voilà, une heure et demie, c'est déjà bien. On va aller cultiver notre jardin, comme dirait Candide. Merci beaucoup à vous, Béatrice, Florian et Jeanne, pour voilà, cette présentation très claire. Merci aux participants, participantes pour les questions. Donc, je vous enverrai en début de semaine prochaine le lien du podcast de cette séance, voilà, si vous voulez réécouter ou diffuser ce que vous avez entendu ce soir. Je vous enverrai aussi du coup le lien de différentes choses peut-être dont on a parlé, si Béatrice m'envoie des liens. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire également pour notre prochaine séance, donc le 4 mars, qui sera sur les instruments de musique à Villeurbanne, une recherche participative menée par le CMTRA, fort, fort intéressante, qui a donné lieu à une exposition qui a lieu en ce moment à Villeurbanne, enfin, qui existe, mais voilà, qui n'est pas visitable, enfin, qui est visitable parce qu'elle est quand même au sein d'une médiathèque. Donc voilà, je vous encourage à aller y jeter un œil. Et puis voilà, les autres séances de podcast sont également disponibles sur le site de toutes les séances de l'année. Merci de votre participation et très bonne soirée à tout le monde.
Bah, merci à vous tous. Merci Hélène pour l'organisation. Merci, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.